Laudetur Jesus Christus.
Les manifestations contre la pénurie d'eau se multiplient en Iran. Elles sont sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. 3 personnes sont mortes ces derniers jours. Il devient de plus en plus difficile de se nourrir pour les ménages libanais. La livre chute, les prix augmentent. Une famille, nous l'entendrons, doit désormais compter 5 fois le salaire minimum pour subvenir à ses besoins alimentaires. Après les inondations dramatiques de la semaine dernière en Allemagne et en Belgique, il est maintenant temps de procéder aux réparations. La Caritas est aux côtés des sinistrés, témoignage à suivre. La Norvège commémore aujourd'hui les 10 ans de l'attentat sur l'île d'Utøya. 77 personnes avaient été tuées par un terroriste d'extrême droite. Quelle est aujourd'hui la menace de ce terrorisme en Europe? La réponse du politologue Jean-Yves Camus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. En Iran, la sécheresse devient de plus en plus grave, en particulier dans la province du Roussestan, dans le sud-ouest du pays. Depuis plusieurs jours, des manifestations contre les pénuries d'eau sont réprimées par les forces de l'ordre, témoignant de la tension ambiante dans une région longtemps considérée par ses habitants comme négligée par les autorités. Les précisions d'Olivier Bonnel.
Le peuple courageux du Khuzestan veut de l'eau, c'est tout, a écrit hier un quotidien iranien, l'Arman Emeli, résumant le désarroi des habitants de cette province jadis très fertile. Un ras-le-bol qui n'est pas nouveau dans une région marquée par une forte sécheresse, mais qui restait jusqu'ici loin des radars médiatiques. L'un des mots dièses les plus utilisés sur les réseaux sociaux ne trompe pas, j'ai soif. La répression des manifestations par les forces de l'ordre, qui aurait fait au moins 5 morts, est désormais à la une de la presse internationale. Depuis une quinzaine d'années, le Khuzestan, situé vers la frontière irakienne, est de plus en plus aride, frappé régulièrement par des tempêtes de sable. La sécheresse, comme dans d'autres provinces iraniennes, a provoqué d'importantes coupures d'électricité. Les lacs de retenue des barrages hydroélectriques étant de plus en plus bas. Hier, la télévision d'État iranienne a montré des images de camions transportant de l'eau, indiquant avoir été envoyés au Khuzestan par les gardiens de la révolution. Mais derrière la communication officielle, le malaise des populations est grand. Il est aussi celui de la minorité arabe en Iran, très présente dans cette province et qui s'est souvent sentie rejetée par Téhéran. Derrière les slogans demandant de l'eau, d'autres cris de ralliement ont d'ailleurs parsemé les manifestations ces derniers jours. À bas la révolution islamique.
Olivier Bonnel. L'affaire Pegasus continue. Cette fois, c'est l'Arabie Saoudite qui dément avoir utilisé le logiciel d'espionnage pour surveiller des journalistes ou des militants des droits de l'homme. Israël, de son côté, pays concepteur de ce logiciel, s'inquiète des conséquences diplomatiques de l'affaire. L'État hébreu crée une commission pour vérifier les responsabilités de chacun. La France, elle, dont le président aurait été espionné, convoque aujourd'hui un conseil de défense exceptionnel. Un nouveau chiffre effarant pour illustrer le marasme économique du Liban. Un ménage libanais doit maintenant dépenser 5 fois le salaire minimum, soit 150 dollars, pour se nourrir convenablement, selon un rapport publié hier par l'Observatoire de la crise de l'Université américaine de Beyrouth. Cette crise est l'une des plus graves depuis 1850. Elle a précipité plus de la moitié de la population libanaise sous le seuil de pauvreté. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifet.
Selon le rapport de l'Université américaine de Beyrouth, une famille de 5 personnes dépense aujourd'hui plus de 3,5 millions de livres libanaises par mois pour la nourriture, l'équivalent de 160 dollars au taux du marché noir. La livre a perdu depuis le début de la crise il y a un an et demi 90% de sa valeur, alors que les salaires sont restés inchangés et que les prix ont explosé. La grande majorité des familles libanaises risquent bientôt de ne plus pouvoir assurer le minimum alimentaire sans avoir recours à une aide de leurs proches ou d'organisations humanitaires. Après la nourriture, il reste à payer l'eau, l'électricité, le gaz domestique et le carburant qui ont grimpé ces dernières semaines en raison d'une levée partielle des subventions. Un rapport de l'UNICEF avait indiqué que 77% des ménages n'avaient pas les moyens pour se procurer de la nourriture et que 30% des enfants avaient dormi le ventre vide en mai. Les réserves en devises de la Banque centrale sont pratiquement épuisées et l'État ne finance plus l'achat de fuel pour les centrales électriques. Cette pénurie provoque des coupures de courant pouvant atteindre parfois 23 heures par jour. La pénurie de mazout a même poussé les générateurs de quartier à rationner de 6 heures en moyenne l'alimentation en électricité. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
33 personnes sont mortes dans les inondations dans le centre de la Chine. La ville de Zhengzhou, métropole de 10 millions d'habitants, a été particulièrement touchée. Une partie du réseau de métro a été engloutie. L'équivalent d'une année de pluie est tombé en 3 jours sur la région. Dans le centre de l'Europe, des milliers de personnes sont toujours en train de nettoyer et de réparer les dégâts. Les intempéries de la semaine dernière en Allemagne et en Belgique ont fait 200 morts. En Belgique, la région de Liège est particulièrement touchée. L'ampleur des dégâts est considérable. Les travaux sont toujours en cours pour rétablir le téléphone, l'eau, le gaz et l'électricité dans de nombreuses communes sinistrées. 9000 personnes doivent encore être relogées. Sur place, la solidarité s'organise et la Caritas participe à l'effort général. Régine Kersman est responsable de Caritas Secours de la délégation de Liège. Elle revient sur les actions de l'organisation.
Depuis vendredi, outre l'appel à la mobilisation, on a aussi lancé un appel à dons financiers parce qu'évidemment, il va falloir aider ces familles rapidement à pouvoir rebondir et retrouver des logements ou retaper, comme on dit, réaménager des maisons sinistrées. Et donc, un appel à dons a été lancé en ligne via notre site caritassecours.be. On peut faire un don en ligne avec simplement mention inondation. Inondation tout simplement. Et on a déjà eu des milliers d'euros qui ont déjà été versés, qu'on espère pouvoir redistribuer très rapidement dès qu'on va avoir un peu plus de renseignements sur les familles que l'on peut aider concrètement, directement. Et le but est vraiment de pouvoir aider ces familles à réparer leur maison ou à trouver des logements. Et c'est vraiment une aide principalement aux sinistrés précarisés, mais il n'y a pas que les personnes précarisées, mais c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que la population qui a été touchée par ces inondations, elle est de tout statut social, mais elle est principalement issue de la classe moyenne et la petite classe sociale, et c'est des personnes qui ont tout perdu vraiment, qui ont tout mis dans leur maison et qui ont tout perdu. Donc c'est principalement ces gens-là que Caritas francophone a envie aussi d'aider, même si évidemment on aidera le plus de monde possible.
Des propos recueillis par Xavier Sartre, cet entretien est à retrouver en intégralité sur notre site internet vaticannews.va. Toujours en Belgique, les 450 personnes sans papiers qui réalisaient une grève de la faim pour demander leur régularisation ont suspendu leur mouvement. Certains très affaiblis ont dû être pris en charge par les soins intensifs. Hier, le gouvernement belge a proposé de faire valoir des circonstances exceptionnelles pour faciliter l'accès aux papiers pour certains d'entre eux, tout en répétant ne pas céder à ce type de chantage. Le variant Delta du coronavirus dans tous les esprits. En Europe, alors que les restrictions sanitaires se lèvent, la crainte grandit. La chancelière allemande Angela Merkel se dit inquiète de la dynamique exponentielle des nouvelles infections de Covid-19 dans son pays. Inquiétude également en France. Le gouvernement estime que la quatrième vague a désormais submergé l'Hexagone. Dès 2022, des vaccins contre la Covid justement seront presque entièrement réalisés sur le continent africain. Les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent qu'une usine en Afrique du Sud au Cap pourra réaliser l'étape finale des vaccins afin de fournir l'Afrique en injections. Jusqu'à 100 millions de doses seront produites par an, mais le continent restera toujours tributaire de l'Europe pour l'acheminement du sérum. Les églises de Norvège ont fait retentir leurs cloches à l'unisson pour rendre hommage aujourd'hui aux 77 vies fauchées il y a 10 ans. Le 22 juillet 2011, la Norvège connaissait le pire attentat terroriste de son histoire. Anders Breivik, un militant d'extrême droite radicalisé, faisait d'abord exploser une bombe à Oslo, puis se rendait ensuite sur l'île d'Utøya pour y massacrer 69 personnes, des jeunes en grande majorité. Un traumatisme profond dans le pays scandinave. Que reste-t-il aujourd'hui de cette menace d'extrême droite? Élément de réponse avec le politologue Jean-Yves Camus.
Sous la forme qu'a pris l'attentat commis par Breivik, la menace de l'ultra-droite est relativement contenue. Breivik était en effet un des très rares spécimens de ce que l'on a appelé les loups solitaires, c'est-à-dire ces gens qui préparent et commettent un attentat seul, du début jusqu'à la fin. Mais il y a une autre menace qui s'est fait du jour depuis, c'est celle de petits noyaux de militants d'extrême droite extrêmement radicalisés qui, eux, n'agissent pas seuls. Ils forment véritablement des cellules, des groupuscules, dont l'intention est de mettre à bas cette société multiculturelle qu'ils détestent. Ils souhaitent donc s'en prendre à deux types de symboles qui sont au fond ceux qu'avait frappé Breivik. L'État, tout d'abord, et puis les personnes de souche non européenne qui vivent sur le sol européen. Et là, c'était la fameuse attaque du Utøya.
Voilà l'analyse de Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, interrogé par Olivier Bonnel. L'information du Vatican, de l'Église et du monde est à retrouver pour le reste de la journée sur notre site internet.